Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Le mois de mai pointe enfin le bout du nez timidement avec son éventail de giboulées, mais sans Isabelle. Ouf. Et sans le boulet qui était encore à la tête de l'État il y a un an, souvenez-vous, tellement il brassait du vent en s'agitant du temps de son mandat, qu'on l'aurait presque oublié aujourd'hui. Absente sa voix de la circulation médiatique, et c'est tant mieux. Mais revenons à nos moutons, à nos brebis. Ce matin à Clermont-Ferrand, plus de 8000 femmes arborant des maillots roses pétants ont couru en faveur de la lutte contre le cancer du sein et non pas pour le cancer du sein, comme me l'a dit une des participantes à cette course, la Clermontoise, la course. Je crois que la participante n'avait pas bien compris le sens de la course. On ne court pas pour le cancer, c'est idiot. On court en avance contre. D'ailleurs, à ce propos, d'après les dernières études soviétiques en la matière, la course à pied serait bénéfique contre le cancer du sein. En effet, le fait de courir favorise le ballottement des mamelles, lequel, à raison d'au moins une heure par jour, éviterait de développer, dans des proportions qui restent à définir, un cancer du sein. La course à pied quotidienne devant s'effectuer sans soutien-gorge, évidemment, afin de favoriser le ballottement des nibards. Cette étude reste à l'état soviétique et n'a pas encore été confirmée par les instances internationales. Mais pour l'heure, la partie anatomique qui nous intéresse chez la femme, qui est à l'honneur aujourd'hui, se situe un peu plus bas. Nous allons parler dans cette pelle à tarte de gynécologie. Et pas à n'importe quel endroit, aussi vaste soit-il et peu familier pour nous autres terriens, l'espace. Pour animer cette pelle à tarte en direct sur Radio Campus 93.3, avec moi autour de la table, Miss Lise, qui nous revient d'un séjour de vacances à vélo.
Bonsoir.
Bonsoir, bonjour. Alice on the road, qui nous revient d'un séjour à Rennes.
Oui, bonsoir.
L'extra Lucie, en pleine forme aujourd'hui.
Oui, bonsoir.
Ainsi que Dr JM, vous avez eu la décence de ne pas venir armé d'une pince Hystérolab, et je vous en remercie.
Précisément.
Et enfin, l'Imperator, toujours au top 01, les circuits intégrés circulent dans ses veines. Il nous a préparé un plat de sa composition, les questions du jeu de l'appel à tarte que vous découvrirez vers le milieu de l'émission. Eh bien, c'est parti, l'appel à tarte.
Au début, régnaient les ténèbres.
Hey, j'ai oublié de te dire, j'ai eu mon premier examen pelvien.
Es-tu sérieuse? J'imagine que c'était horrible.
La gynécologie dans l'espace.
L'appel à tarte.
Eh bien, pour débuter cette émission, nous allons évidemment commencer par la rubrique qui l'introduit comme à chaque fois, c'est-à-dire l'appel histoire.
Pendant que tu étais sur la plage cet été ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait?
Oh, quelle belle histoire!
Le soleil a rendez-vous avec la lune.
Trenet avait déjà abordé ce sujet il y a quelques années, mais aujourd'hui, nous le concrétisons. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Et oui, aujourd'hui, la belle histoire ne fait pas dans la finesse et vous raconte en quatre chapitres bien balancés l'histoire croisée de deux territoires de l'exploration humaine, j'ai nommé la gynécologie et l'espace. Pendant qu'Alison installe le paperboard, j'en profite pour attirer votre attention sur l'étrange similarité de faits que nous allons vous relater ici et qui, naturellement, amène au thème de l'émission d'aujourd'hui, la gynécologie dans l'espace. Chapitre 1, observation. En gynécologie comme en matière spatiale, l'humain est un éternel curieux. Il faut toujours qu'il trouve le moyen de mettre bout à bout quelques lentilles pour se construire une lorgnette, puis y jeter un coup d'œil. À vrai dire, l'humain ne fait pas dans la dentelle, et dès 1923, on s'intéresse à l'idée d'un satellite télescope. En 1977, le Congrès américain sort son chéquier et lance le projet, qui se concrétisera le 24 avril 1990 avec la mise en orbite Hubble. En gynécologie, l'histoire est semblable. Les premières expériences de célioscopie ont lieu au milieu des années 50. Il faut cependant attendre la fin des années 80 pour que la chirurgie célioscopique devienne une technique envisageable. Dans les deux cas, la technologie a énormément évolué. N'oublions pas qu'au début, Hubble était myope, donc inutilisable, et que la célioscopie se réalisait sans caméra, simplement en regardant au bout d'un tube en métal inséré dans l'abdomen. De ces deux technologies aujourd'hui matures, étrangement, on trouve dans la presse et sur Internet majoritairement des images de l'infiniment lointain. Alors que le nombre d'images gynécologiques réalisées chaque jour est bien plus grand que le nombre d'images exploitables produites par Hubble. À croire que personne ne s'intéresse à ce qui se passe près de chez nous et préfère passer son temps à regarder le pré du voisin.
Chapitre 2, extraction. Changer d'environnement, décentrer l'humain du milieu dans lequel il est placé, voilà un pari risqué mais tout de même tenté depuis des milliers d'années. À l'état fœtal déjà, il semble que l'être humain ait des difficultés à rester à l'endroit où il se trouve. J'en veux pour preuve l'accouchement. Cet acte quelque peu rebutant mais qui nous a tous permis un jour de pousser allègrement notre premier cri à l'air libre. Cependant, nous ne sommes pas tous dotés des mêmes capacités d'extraction. Certains résistent et se refusent à utiliser les canaux traditionnels. Une incision dans les parois maternelles est donc nécessaire pour voir le jour. De ce petit hublot est créée une ouverture élargie à l'aide des doigts, d'où est décollé le placenta et le tour est joué. Aujourd'hui, la femme n'a même plus besoin d'être décédée pour bénéficier de cette joie et le choix de l'écartèlement peut être même volontaire. Plus tard, petit fœtus est devenu grand. Il a arpenté des sentiers, s'est baladé dans des contrées lointaines. Mais déjà, se fait ressentir l'envie d'aller plus loin. Et pourquoi pas l'espace ? C'est ainsi que dès 1961, sans incision mais avec extraction dans des parois métalliques, l'homme a élargi son champ de vision sommaire au système solaire. Il décolle et s'envole vers de nouveaux pays merveilleux. Chapitre 3. Exploration longue durée. En 1986, Louise Brown avait 7 ans. Le monde entier tournait son regard vers le ciel après l'avoir regardé elle. Une poignée de cosmonautes pionniers se mettait en route vers la première station spatiale habitée sur du long terme. Vous vous demandez sans doute ce que la petite Louise vient faire dans cette histoire. Pourquoi Mira-t-on Louise avant Mir ? Et qu'est-ce que ces deux protagonistes ont en commun ? Bien que Louise Brown ne fût pas précurseur des séjours spatiaux longs, elle explora sans le savoir les recoins de sa mère et non pas de son Mir. Et oui, 7 ans auparavant, Louise n'était qu'une cellule haploïde applaudie pour avoir éprouvé via une éprouvette sa rencontre avec un autre gamète. La fécondation in vitro venait en aide à la procréation et installait artificiellement pour la première fois un embryon dans le ventre d'une femme. Mir, c'est un peu pareil, un labyrinthe dans lequel un équipage tente de survivre en milieu hostile pour parvenir à une occupation permanente.
Chapitre 4, féminisation. Comme un peu partout, les deux domaines qui nous intéressent ici sont avant tout histoire d'hommes, avec un petit H. En effet, on compte seulement 55 femmes parmi les 525 êtres humains à avoir été envoyés en l'air. Les plus étriqués défenseurs de la prétendue égalité des sexes noteront que tout de même, le premier animal dans l'espace était un canidé femelle, et que ça compense un peu. Chacun voit midi à sa porte, pour ma part je trouve cet argument un peu fumeux. En gynécologie, l'histoire est équivalente, les femmes ayant là aussi mis du temps à y faire leur trou. Mais une exception bien de chez nous vient tout de même déviriliser le milieu. Il s'agit de l'incontournable Angélique Marguerite du Coudray. La Kemble, comme l'auront noté les plus attentifs, a donné son nom à une petite rue sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Cette auvergnate du XVIIIe siècle, sage-femme de son état, est l'inventeuse de la bien nommée machine de Madame de Coudray. Or, pour les ignorants, rappelons qu'il s'agit en fait d'un mannequin de toile, rembourré, représentant, en grandeur réelle, la partie inférieure du corps d'une femme, une poupée de la taille d'un nouveau-né, ainsi que différents accessoires montrant entre autres l'anatomie de la femme. Pour faire simple, cet attirail pédagogique, digne ancêtre des poupées gonflables, a permis d'éduquer des centaines de madrones de la campagne, notre héroïne sillonnant les terres du royaume pour y faire des leçons de choses. Et finalement, la boucle est bouclée par l'une des dernières campagnes de communication de la NASA, laquelle ne montre pas, comme à son habitude, des spationautes masculins en plein travail, mais préfère représenter une jeune femme langoureusement allongée, en train de contempler la Terre depuis une station spatiale. Une belle illustration de la femme objet de l'espace.
Vous êtes sans doute arrivé à la même conclusion que nous. Gynécologie et espace sont des conquêtes qui se recoupent, et parfois plus qu'on ne le pense. Aussi, il vous est aujourd'hui possible d'expérimenter des techniques mêlant ces deux domaines sans avoir eu besoin de suivre un entraînement intensif. À ce propos, je n'ai qu'une chose à dire, brevet numéro 3216423, plus communément appelé accouchement par centrifugeuse. Il est difficile de comprendre pourquoi cette idée est passée à la trappe depuis 1965. Le mécanisme est pourtant d'une simplicité sans pareille. Il suffit de placer une femme à terme sur une table circulaire, de bien l'attacher aux extrémités et de mettre en route l'engin. La roue tournera à une vitesse d'environ 7G, expulsant tout naturellement le bébé hors du vagin. Oh, ne vous inquiétez pas trop vite, un petit filet placé au niveau de l'entrejambe de la mère servira de réceptacle afin de récupérer le dit enfant en toute sécurité. Et voilà comment technologie spatiale et gynécologie font corps en toute harmonie.
Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller comme on vole sur le chemin de l'école. Karl Norag.
Ah, c'était vraiment une belle histoire.
Bien, merci Alison DeRoad et Dr. JM pour cette belle histoire. Afin de s'élever vers les hauteurs, je vous propose d'écouter le titre « Jewel in the Night ». C'est la première chanson enregistrée depuis l'espace hein, par l'astronaute canadien Chris Hadfield, âgé de 53 ans, en vol à bord de la Station Spatiale Internationale. Titre qu'il a enregistré donc et qu'il a mis en ligne dans les premiers jours de vol à la fin de l'année 2012.
Jewel in the Night. First recording from Space Station, really?
So bright, jewel in the night, there in my window below. So bright, dark as the night, with all of our cities aglow. It's long been our way to honor this day and offer goodwill to men. And know wherever we go, it's come round to Christmas again. So far shines every star, there without limit to see. So grand, far away land, beckoning, calling to thee. And let it be shown wherever we go, in all of the wonders above. With all that we bring, there's no finer thing than this message, this promise of love. A love for the families that gather below. Love for the stranger that you never know. For those who aren't with you, who wander above. So us all that we know, and never cease this message of peace from Bethlehem so long ago, and never cease this message of peace from Bethlehem so long ago.
Les Russes se sont intéressés à la gynécologie dans l'espace dans les années troubles, restées assez obscures pour le reste du monde, en lançant un vaste programme d'expérimentation à échelle humaine qui consistait à envoyer des femmes à bord de navettes spatiales pendant plusieurs mois afin d'étudier la fécondation et le processus de grossesse jusqu'à l'accouchement quand il avait lieu. Ces femmes, spécialement entraînées, choisies avec précision chère à la rigueur soviétique ou bien purgeant des peines pour désobéissance au régime, était enrôlé de force pour ce programme d'expérimentation gynécologique. Tenues au secret militaire, sous peine d'exécution, elles étaient fécondées soit avant le vol, soit pendant. Parfois, par manque d'effectifs civils, des spationautes du sexe féminin servaient de cobayes et étaient engrossés par leur supérieur hiérarchique dans le sas de décompression du vaisseau spatial. Après quoi, leur mission changeait de cap, sans manquer de tenue, car il y en avait pour tous les goûts et tous les grades, des combinaisons. Toutes ces femmes, faisant partie du programme top secret soviétique d'études gynécologiques en apesanteur, étaient examinées de près, suivies par des médecins spécialistes pendant toute leur grossesse, faisant l'objet d'une surveillance ardue et d'expériences parfois douloureuses comme un avortement provoqué ou pour celles qui n'étaient pas enceintes, car il y en avait aussi, de tests par prise de cachet ou opérations pour étudier des maladies en tout genre au nom imprononçable, hein, surtout en russe. Un vrai champ de bataille, une atrocité de plus, une exploitation de l'homme par l'homme, plus précisément de la femme par l'homme. Quant aux bébés, ils ont été pour la plupart jetés par-dessus bord ou abandonnés dans la nature lors du retour sur Terre. Et les mères, enfermées dans des centres spécialisés, disons des asiles, car à force d'être enfermées et maltraitées, elles sont devenues folles ou dépressives, sans compter que les séjours dans l'espace ne sont pas sans conséquences sur la santé. On note en particulier, comme effet secondaire lié au séjour en apesanteur, la décalcification des os, l'atrophie musculaire, la diminution du volume sanguin et du nombre de globules rouges, l'exposition aux radiations et ainsi que l'atteinte sur le moral et le psychique. Je pourrais continuer ainsi, mais je sens que l'étonnement et la perplexité vous atteignent à l'écoute de ces propos. Je tiens donc à vous signaler que ces faits ne sortent pas de n'importe où, mais qu'ils sont bel et bien rapportés, décrits avec minutie dans le récit du journaliste et enquêteur Christophe Groffin, dont l'ouvrage « La gynécologie dans l'espace sous le régime soviétique » vient de ressortir aux éditions du Vagin Astral. À l'époque, Christophe Groffin et son associé, qui partait en éclaireur et dont la véritable identité n'a jamais été dévoilée, hein, pour des raisons de sécurité que nous comprendrons aisément, ont réussi tous deux donc à s'introduire dans un de ces établissements soviétiques et en se faisant donc passer pour des officiers russes, et ce, sous la protection des services de renseignement belges. Il raconte donc, Christophe Groffin, il raconte notamment comment le périple de son associé parvenu à pénétrer dans un hôpital psychiatrique. En voici un extrait. À l'asile pour cosmonautes section féminine, Ivajinov, c'est le surnom de son associé, doit retrouver une femme en particulier, celle qui pilotait lors de la première phase de vol le disque dur du vaisseau CRK-325-JR-12 et qui a perdu la mémoire en cours de vol. Dès son retour sur Terre, elle a été enfermée dans un de ces asiles de dingue où l'on soigne, ou fait semblant de soigner, par je ne sais quel procédé cosmologique, les femmes qui ont perdu la raison dans l'espace après leur voyage expérimental en orbite afin d'étudier la gestation in vitro céramique dans une bulle d'eau vert polie et remplie à ras bord. Seulement, des femmes folles, il y en a dans chaque chambre dans cet établissement. Et comme Ivajinov n'a ni son nom, ni son numéro de code, il erre dans l'hôpital, il est déboussolé, il ne sait plus trop où il en est, il chuchote, il marmonne du bout des lèvres, il va, geint, ça et là, ouvre une porte, se trompe de folle et hop ! Il rencontre un jeune slave, garçon de service, qui lui offre du thé, russe évidemment. Il en boit une gorgée, tous, et presque s'étouffe. Voilà qui vous donne la teneur de ce récit de Christophe Groffin, qui, je le rappelle, vient de reparaître et a donc fait l'objet d'une publication aux éditions du Vagin Astral dans la collection Politique et Santé, en vente dans toutes les quincailleries médicinales et autres librairies anatomiques.
Ok, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait pas mal et t'étais pas gêné?
Le temps, l'espace et la matière.
La gynécologie dans l'espace.
L'appel à
tarte. Vous êtes bien à l'écoute de l'appel à tarte sur Radio Campus 93.3 et pour l'heure dans cette émission, afin d'éclairer votre sentiment, votre avis, votre ressenti émotionnel sur la gynécologie dans l'espace, nous accueillons nos invités. Donc j'ai nommé Brigitte Fardeau.
Bonsoir.
Bonjour. Alors vous êtes venu avec votre panier, assez lourd à transporter, et vous êtes membre du Civitas, mais pas si vite que ça, et vous êtes donc une descendante d'Urbain Douche, Urbain 2.
Et je le revendique, oui.
C'est assez exceptionnel, nous avons une descendante d'Urbain 2, ici à Clermont-Ferrand. Également sur ce plateau, donc Coco Zézette. Hein.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, dite la touffe de garde.
Oui.
Vous êtes féministe et vous détestez les hommes, c'est vous-même qui le déclarez. Vous avez notamment publié aux éditions « Ça trompe énormément, les garçons viennent de Mars et les filles de l'utérus ». Et là, vous venez de publier un nouveau livre, « L'utérus est à la femme, ce que l'Uranus est à l'homme », livre qui comporte exclusivement ou presque des photos. Et puis, nous recevons donc sur ce plateau Robert Ballet.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes technicien de surface à la NASA. Et
tout à fait.
Vous pourrez nous éclairer sur les conditions peut-être de vie, au quotidien dans une navette. Alors évidemment, nous aurions pu parler de la gynécologie dans l'hospice, mais ce n'est pas un secteur très brillant et très fréquenté par les gynécologues. Et si pour bon nombre d'entre nous, l'avenir est dans l'hospice, il est aussi pour les générations futures peut-être dans l'espace. Alors même si la gynécologie et l'espace n'ont pas grand-chose à voir, leur mise bout à bout pourrait bien nous alerter sur le besoin d'espace, d'aération, dans les domaines aussi divers que la gynécologie par exemple, ou encore la mécanique des fluides en circuit fermé, ou bien encore la pétanque entre deux platanes. Alors évidemment, des questions se posent, et je vous les poserai peut-être ultérieurement. Tout d'abord, je voudrais vous demander à chacun qui, sans être forcément expérimenté en gynécologie, que pensez-vous d'expérimenter ou que pensez-vous donc, de la gynécologie dans l'espace, puisqu'on connaît donc la gynécologie sur Terre. Bon, ça, c'est pas très original. Que pensez-vous d'aller expérimenter la gynécologie dans l'espace ?
Oui, alors on est en plein dedans. Vraiment, ce que votre introduction est très intéressante parce que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on fait des expérimentations et on perd vraiment les valeurs de ce qui se passe réellement en fait. Avec le mariage homo, on a perdu la notion de sphère, de la sphère intime et la sphère publique. Si vous voyez une sorte de sphère comme autour du soleil qui tourne autour, et on est parti complètement dans l'espace. Là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et je suis là pour revendiquer ça parce qu'on va vraiment vers la perte de nos valeurs, la perte de la famille. C'est les enfants qui vont souffrir.
L'espace est une porte ouverte à tout.
Alors moi, je pense que c'est important de parler d'Uranus, mais avant tout, c'est important de parler d'utérus. Et moi, je défends l'orgasme systématique.
Il y a des enfants qui écoutent.
Je pense...
Mademoiselle,
oui,
un peu de retenue.
Bon, on va pas vous écouter. Je vous ai laissé parler, donc voilà, c'est à moi de parler. Donc je pense qu'il faut l'orgasme féminin systématique et qu'il faut castrer les hommes qui ne donnent pas systématiquement des orgasmes. Et voilà, et je pense que... Madame ici présente est vraiment un recul pour notre société car il faut que les femmes se libèrent et ce genre de formule prude là, c'est vraiment quelque chose qui fait reculer les combats féministes.
Donc bien compris, votre planète préférée c'est donc
l'utérus.
Donc non pas Uranus mais utérus, on ne sait pas trop dans quelle galaxie elle se situe, mais enfin Robert Ballet
entendre les deux autres personnes qui viennent de parler, moi je croyais qu'on devait parler de l'espace quoi, des navettes spatiales. Oui, ouais. Moi je voulais vous dire un petit peu ce que je sais parce que quand je travaille à la NASA, du coup je vois les gars qui montent dans les fusées quoi.
Ouais, des gars quoi. Toujours des gars.
Non, il y a aussi des femmes astronautes.
Il y a aussi des madames.
Cosmonautes.
Il y a les deux. Ils ont les mêmes tenues d'ailleurs. Et moi je connais que ça. Hein, ils montent. Enfin après, c'est vrai qu'ils s'entraînent beaucoup sportivement au début. Hein, on les voit dans le centre s'entraîner. Mais moi, je sais pas pour la gynécologie, monsieur.
Non, mais ça, je trouve ça scandaleux parce que déjà les hommes et les femmes, ne sont pas du tout pareils. Les femmes
évidemment
ont un utérus et les hommes ont un pénis. Et c'est bien la preuve par A plus B que les femmes sont supérieures.
Pourtant, moi j'ai rien contre l'orgasme, mais faut quand même rappeler que c'est juste pour la copulation, la reproduction. C'est ça notre mission à tous. L'orgasme, ça sert à rien.
Et après, tous les IVG, qu'est-ce que vous en
copulation,
faites
copulation, quoi.
Moi, je pense qu'il faut donner la pilule à tout le monde.
Bah non. Sinon, comment voulez-vous avoir d'enfants avec la pilule ?
Aux hommes, aux femmes, aux vieux, aux enfants, à tout le monde, quoi.
Non, à toutes les femmes, n'importe quoi. Bien sûr que non. Hein. Les hommes, ils n'ont pas besoin de prendre la pilule. Hein. Vraiment n'importe quoi.
Bah, je ne sais pas. Ça pourrait être un moyen de contraception comme un autre. Alors, moi, je voulais vous poser une question. Puisque, en parlant de gynécologie, pensez-vous qu'on puisse lancer des bombes anatomiques dans l'espace?
Les Russes, ils avaient déjà fait des bombes électro-fragmentation électronique.
Donc les bombes atomiques, on connaît, mais les bombes anatomiques, ça existe. Hein.
Il y a plein de technologies différentes.
Les homosexuels, je pense qu'on peut.
Ouais, bon.
Et les top modèles, c'est des bombes anatomiques?
On peut considérer des top modèles comme des bombes anatomiques.
Donc, par exemple, on pourrait imaginer des top modèles qui vont dans l'espace. Parce que j'ai vu un film une fois où il y avait une top modèle qui allait dans l'espace.
Alors, je trouve que la femme soit fière de son image, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, on devrait montrer plus souvent des images d'utérus. Parce que c'est faut arrêter d'avoir peur.
On a bien
peur,
compris votre fascination pour cet organe
et que
du corps féminin.
Mais oui, mais est-ce que c'est central, là, c'est central. C'est comme ça qu'on va aller de l'avant. C'est comme ça qu'on va comprendre que c'est à nous, les femmes, de prendre le pouvoir, qu'il faut renverser ce système patriarcal et il faut faire taire les hommes qui nous ont trop longtemps oppressés.
Ce sont des pulsions ici, mademoiselle. Ce sont des pulsions. Et quand vous cédez à vos pulsions, vous vous déshonorez et vous déshonorez l'ensemble de l'humanité.
Alors vous, vous faites reculer l'image de la femme. Donc je comprends même pas qu'on vous ait invité sur ce plateau.
Il faudrait que vous retourniez au catéchisme.
Alors, pour revenir un petit peu à cette idée donc, de gynécologie, vous pensez-vous qu'un gynécologue, par rapport à nous ce qu'on connaît dans notre pays, serait-il à même d'exercer dans l'espace? Et alors après, ça pose aussi des questions pratiques. Hein, quelle pratique d'honoraire
Oui, c'est important que les gynécologues accompagnent les couples qui vont dans l'espace pour pouvoir procréer également dans l'espace. C'est notre but. Il faut être accompagné, les gynécologues sont là pour ça.
Oui, et puis donner la pilule à toutes les femmes pour qu'elles puissent enfin avoir le contrôle de leur sexualité.
Ça, c'est secondaire. Le gynécologue, son rôle, c'est d'accompagner la femme enceinte.
Et de donner la pilule.
Moi, j'étais sûr que vous alliez poser cette question, alors j'ai un peu révisé parce que du coup, je voulais savoir. Et en fait, ce que j'ai vu, si j'ai compris, l'utérus, c'est un muscle. Et alors, moi, je sais que les gars là qui montent, ils ont besoin de faire beaucoup d'exercices physiques parce qu'en fait, les muscles se détendent. Et du coup, moi, je sais pas, mais peut-être, en fait, c'est pas possible d'accoucher dans l'espace parce que si les muscles ils se détendent, l'utérus c'est un muscle, il va se détendre et le bébé il sort. Enfin, peut-être. Moi, je sais pas.
Bah, apparemment, les soviétiques ont déjà expérimenté ce genre de. Mais bon, nous avons jamais eu les résultats, évidemment.
Peut-être qu'il y a pas de bébé. Hein. Enfin, en tout cas, moi, les gens que j'ai vu descendre des navettes, c'était des adultes. Hein. Il y a jamais d'enfants.
Non, c'est sûr.
Mais alors, moi, j'ai une question. Parce que est-ce qu'on connaît la taille de leur pénis? Parce que je trouve qu'on ne
voit pas l'intérêt,
jamais,
franchement.
On ne connaît jamais. On ne connaît jamais la taille des pénis des garçons. Et on trouve ça outrageant lorsqu'on demande à un garçon la taille de son pénis, alors que je ne vois pas où est le problème. Parce qu'eux, ils voient bien la taille de nos seins, la taille de nos hanches, tout ça.
Et la taille de votre utérus, évidemment.
Et la taille de mon utérus, parce que je n'ai aucune honte à montrer
vos propos
mon utérus.
Sont hors de propos,
d'ailleurs,
quoi.
J'ai des photos de mon utérus, si vous voulez les voir, ça ne me pose aucun problème.
À la radio,
problème.
C'est effectivement très intéressant, je vous remercie.
Vous cédez encore à vos pulsions.
Une autre pensée que j'ai trouvée quelque part, je ne sais pas, peut-être qu'elle va vous interroger, la musicologie est à la musique, ce que la gynécologie est à l'amour. C'est une phrase de Roland Le Tourneux. Une réaction?
Oui, tout à fait. On peut se reproduire également en musique et ça nous accompagne aussi dans notre mission de reproduction.
Il y a 2001, l'Odyssée de l'espace aussi. Là, il y a la musique avec les vaisseaux spatiaux.
Ah. Bon. Eh bien, je vois que votre avis était, pour ainsi dire, j'espère, chers auditeurs, que vous aurez été quelque peu éclairés par ces trois personnes ici présentes.
Et ils sont malades quand même. Hein.
Les lois
la personne à côté de moi,
oui,
je veux bien insister sur le fait qu'elle est malade.
C'est complètement malade.
Je croyais qu'on allait parler
un peu comme
l'homosexualité. Spatiaux, je suis très déçu.
Une maladie,
parce que...
vraiment.
Je sais pas.
Si les lois de la gynécologie dans l'espace ont été bouleversées en leur temps par le fameux Schmilblick des frères Foderch, vous allez pouvoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Non. Eh bien, je veux dire, par là même qu'il est grand temps d'appeler l'impérator aux manettes pour passer au jeu de l'appel à tarte.
Tout à fait, professeur. Alors, pendant que je vous explique les règles d'aujourd'hui, eh bien, je demanderai à chacun de prendre un petit papier et de noter son nom, comme d'habitude, sur le petit papier. Et vous mettrez tous ces petits papiers dans la casserole du professeur. Alors, professeur, bien évidemment, aujourd'hui, vous serez encore pour la troisième fois mon assistant dans ce jeu.
D'accord.
Vous
donc
êtes donc, par conséquent, sans papier.
Ok, donc prenez un papier. Voilà, vous avez un papier.
Alors, nouveau mois, nouveau jeu, nouvelles règles et réciproquement. Aujourd'hui, je ne poserai qu'une question aux deux candidats qui seront tirés au sort par le plus grand des hasards douteux. Alors, ils auront le droit, eux, en retour, de me poser, à tour de rôle, cinq questions à haute et intelligible voix pour trouver sans détour la réponse à la question initiale, qui est la question suivante. À quoi sert le Schmilblick? Alors, vous vous demandez certainement, qu'est-ce que le Schmilblick? Pendant que vous finissez d'inscrire vos noms, je vous propose d'écouter l'introduction qu'en a fait Pierre Dac.
Au 18 juillet de la même année, que les frères Foderch ont jeté les bases de cet extraordinaire appareil, dont la conception révolutionnaire risque de bouleverser toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique nucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace.
Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'un appareil révolutionnaire. Mais à quoi sert-il exactement ? Alors, je pense que tout le monde a inscrit son nom, c'est bon ?
Oui, j'ai donc récolté les papiers qui sont dans la casserole.
Très bien, alors nous allons demander à votre main innocente, cher huissier de justesse, de tirer au sort le premier nom de la casserole.
Je vous lègue et je tire donc un papier. J.M.
J.M. Eh bien, très bien, donc notre premier candidat, le docteur J.M. Et vous allez donc tirer un deuxième petit papier, attention.
Alors je tire un deuxième papier, attention, je remue. Et je tire un papier. Il s'agit de Brigitte Fardeau.
Brigitte Fardeau, deuxième candidate. Alors, est-ce que vous avez bien compris les règles du jeu d'aujourd'hui ?
Oui.
C'est bon, vous avez bien entendu.
Attention, ça va être à vous. À tour de rôle, vous pouvez me poser 5 questions chacun pour tenter de répondre à la question « À quoi sert le Schmilblick ?». Je vous écoute donc pour vos questions.
Est-ce que ça a une utilité pour notre mission fondamentale qui est la reproduction ?
Ça peut avoir une utilité, tout à fait.
Est-ce que c'est quelque chose qui va dans l'espace ?
Ça peut également aller dans l'espace, oui.
Est-ce que ça diffuse de la musique ?
Initialement, non.
Est-ce que c'est plus grand qu'un humain ?
Alors, il y a plusieurs types de Schmilblick. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits.
Est-ce que la pratique du Schmilblick n'est pas une contre-indication pour aller au paradis ?
Non.
Est-ce que le Schmilblick a un moyen de propulsion ?
Il peut en avoir un.
Est-ce que le Schmilblick peut être utilisé par des enfants ?
Ah oui, il n'y a aucune contre-indication pour les enfants.
Est-ce qu'un Schmilblick est fabriqué par l'homme ? Avec un grand H
Par les hommes même, plusieurs hommes, puisque c'est les frères Foderche qui l'ont réalisé.
Mais utilisable par les femmes.
Tout à fait. Docteur J.M., votre dernière question.
Est-ce qu'un Schmilblick est déformable ?
On peut l'envisager, oui. Alors, vous avez tous les deux posé vos 5 questions. Vous avez donc peut-être une idée de ce qu'est le Schmilblick. Oui, non.
C'est un lit ?
Non, ce n'est pas un lit.
Moi, je pense à un scaphandre.
Alors, on va voir si l'un des deux, quand même, est proche de la réponse initiale que nous donnait Pierre Dac. Donc, on va écouter la réponse à la question « À quoi sert le Schmilblick ?»
Pour pertinente qu'elle soit, cette question ne comporte pas de réponse. Car le grand, l'immense mérite des deux illustres savants qui sont les frères Foderche, résident principalement dans leur magnifique esprit de désintéressement, puisque faisant uniquement de la science pour la science, comme d'autres font de l'art pour l'art, ils n'ont jamais et à aucun moment envisagé le côté bassement utilitaire de leur généreuse et gratuite invention. Ainsi donc, haut les cœurs et chapeau bas, devant ces deux hommes, aussi modestes qu'audacieux, et qui, partis de rien, pour arriver nulle part, n'ont pas hésité à consacrer les plus belles années de leur existence au seul bénéfice de la géniale réalisation qu'est le Schmilblick, ce Schmilblick dont on peut d'ores et déjà prédire que demain, ou les jours suivants, il sera universellement considéré par tous les hommes de bonne volonté, non seulement comme le sublime foyer du phare d'une civilisation lumineusement rénovée, mais encore et enfin, comme la seule panacée possible au sein d'un monde humainement et schmilbliquement pacifié.
Pas de gagnant aujourd'hui, donc, mais vous ne repartirez pas les mains vides puisque vous repartez chacun avec l'intégrale de l'appel à tarte, à savoir les 8 premières émissions plus celle d'aujourd'hui et par le truchement du Schmilblick, l'enregistrement de la prochaine émission, celle du 2 juin 2013 qui devrait avoir lieu normalement en direct et peut-être en public. On en reparlera sans doute tout à l'heure, professeur.
Juste une question, c'est un produit Apple en fait, le Schmilblick ?
Non, c'était avant l'invention d'Apple d'ailleurs. Apple n'existait pas encore.
trou noir, au Big Bang ou au cœur même de la matière.
Pour commencer, je vais insérer doucement un spéculum lubrifié dans ton vagin.
La gynécologie dans l'espace.
L'appel à...
Alice on the Road va maintenant nous interpréter « J'ai un trou noir », une chanson traduisant les tribulations d'une femme qui vient de mettre bas.
J'ai sorti un enfant de mon vagin spatial. Mais qu'a-t-il donc de spécial? Je vais vous le dire maintenant. Tel le TARDIS de Doctor Who, mon utérus est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vraiment dément. J'ai un trou noir. 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 Papa. Cette expansion universelle de ma voie lactée personnelle m'a pas fait grimper jusqu'au ciel et m'a atteint jusqu'aux mamelles. Ce grand Big Bang est un tabou, mais il me fascine par-dessus tout. À croire que c'est une gravité, Newton n'avait pas soupçonné. J'ai un trou noir, j'ai un trou noir, j'ai un trou noir, j'ai un trou noir. Tout mon sac, sans se figurer cette fois, à celui qui est sorti de ma barrique à la vitesse d'un Spoutnik. Apparemment, je ne suis pas seule à posséder ce don-là. N'importe qui peut mettre bas en s'étirant les parois. J'ai un trou noir. J'ai un trou noir. J'ai un trou noir. J'ai un trou noir. J'ai sorti un enfant de mon vagin spatial. Mais qu'a-t-il donc de spécial? Je vais vous le dire maintenant. Tel le TARDIS de Doctor Who, mon utérus est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vraiment dément. J'ai un trou noir. Papa la la.
Jamais entendu.
Après l'énorme bouse, hein, musical sur fond de danse à l'image du son diffusé, ou l'inverse, hein, place de Jotte, donc vendredi, ce vendredi, là, vous aurez la primeur d'un silence exceptionnel dans les jours qui viennent. Info très réduite aujourd'hui, n'est-ce pas? Une dernière, donc parce que le communiqué de presse est en panne et la machine qui envoie les messages est en réparation. Donc je n'ai pas grand-chose à vous fournir, malheureusement. Une dernière info, à Clermont-Ferrand, donc la nouvelle navette spacieuse, et non spatiale, hein, qui peut amener donc n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, y compris des animaux, y compris des insectes, etc., des mouches et des abeilles, et même des scorpions, mais il n'y en a pas à Clermont-Ferrand. Donc il peut amener n'importe qui de la place de Jode à l'endroit où il veut, et désormais en route depuis ce matin, 10h67.
Mes rêves sont trop fatigués. Tu es poil pour l'examen, les jambes en l'air. Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que je devrais m'épiler?
Non.
Et qu'il n'y ait pas de distinction entre passé, présent et futur.
L'appel à ta...
Vous êtes bien sur, et nous sommes nous aussi bien, même très bien, sur Radio Campus 93.3. Vous écoutez l'appel à tarte. Alors après le jeu, dont, comme vous avez pu le remarquer, les questions étaient contenues dans les réponses, et réciproquement, donc jeu magnifiquement concocté par l'Imperator. Et puis cette magnifique réponse de Pierre Dac. Pierre Dac, notre maître 63. Et puis, donc suite aux voix de secours qui nous ont interprété cette chanson, donc je ne me rappelle plus tellement le titre. J'ai un trou noir. Merci, JM.
Avec plaisir.
Et bien, c'est le moment tant attendu de cette émission, de retrouver Karma Burny, notre extra-Lucie nationale. Bonjour.
Le péloscope.
Aujourd'hui, le péloscope se lance à la conquête de l'utérus et de l'espace, au barycentre du système solaire et du système de reproduction se tient le secret de la vie, de l'avenir. Ancrez vos pieds sur les étriers, je vais vous ausculter avec un toucher rectal dans l'hémisphère austral ou un spéculum spectral pour un frottis galactique. Voici votre bilan astronomique. Suivant votre signe pélostropique supersonique, vous connaîtrez quels sont vos accès inexplorés au périnée. Alors, commençons le diagnostic. Vous êtes ITI, ET, 2B, et vous avez le doigt long. ET, téléphone, maison. ET, téléphone, maison. Pour vous lancer à la conquête des fesses, vous utilisez à outrance le texto. Pour arriver à vous faire héberger, il faudra songer à mieux pianoter et à utiliser votre matière cérébrale. Car non, ça va, ne s'écrit pas S-A-V-A. Si vous ne comprenez pas cela, vous pouvez oublier l'utérus et garder votre grand doigt pour vous gratter l'Uranus. Alors, le signe des marginaux vaginaux de Callisto. Loin de nous, sur votre lune, vous vous demandez si vous goûterez un jour à l'humidité du Mectus. Malgré sa force gravitationnelle exceptionnelle, le trou noir vous rebute, car les règles physiques et métaphysiques vous dépassent. C'est le cul-de-sac de Douglas. Sans Douglas. Pour accéder au toucher bidigital spatial, je ne peux que vous conseiller de prendre cette gravité à la légère. Laissez-vous porter par les vents solaires supersoniques nique-nique. Vous êtes fusée. Grrr. L'exploration de l'espace n'a pas de secret pour vous. Le con et la quéquette vous sont conquises. Vous savez, à l'étroit, au but, à l'apogée de la sophistication technologique, vous errez au-dessus de la thermosphère au 7e siècle. Vos moteurs sont en marche. Décollage imminent. Accrochez votre gotte-ceinture. Attention aux secousses. 3, 2, 1.
Es-tu menstruée régulièrement? Es-tu active sur le plan sexuel?
Au-delà des limites de la planète où nous vivons,
la gynécologie dans l'espace.
L'appel à...
Les voix de secours sont là, prêtes à chanter sur l'air de Pirouette Cacahuète, une comptine écrite par Gabrielle Grandière en 1953, qui était alors institutrice. Et c'est une toute autre version que vont vous interpréter les voix de secours pour clôturer cette pelle à tarte, le vieux gynécologue et la jeune écolo-cosmonaute.
Moi le vieux gynécologue, pirouette, frottiouette. Moi le vieux gynécologue, je voudrais travailler dans l'espace. Est-ce que vous auriez une place?
Moi l'écolo, cosmonaute, pirouette, la fusette, jeune écolo, cosmonaute, je vous invite dans mon trafic ou mon estafette.
Je dis pas non, jeune écolo, pirouette, l'estafette, j'ai laissé Ginette au logis, au gigolo qui lui sourit, ma femme a des drôles de lubies.
En effet, c'est une drôle d'affaire, pirouette, la Ginette, venez docteur sur ma planète, et soyez sage au petit matin, que prendrez-vous les cafés-tés?
Je bois du thé russe, aime la vagin, pirouette, c'est la fête, je bois du thé russe, bien infusé, pour un décollage assuré, décollage illicologique.
Ah, c'est donc ça que vous cherchez? Pirouette, la girouette, venez dans mon jardin secret. Je vais vous montrer ma fusée, elle est à vous, allez sauter.
Il a sauté dans la fusée.
Pirouette, hop la ouette, décollage gynécologique.
Le gynéco a disparu, on ne l'a plus jamais revu.
Où un touriste en se réveillant pourrait profiter de la vue qui s'offrirait à lui depuis
ses parois vaginales
situées dans l'espace.
La gynécologie dans l'espace.
L'appel à ta...
Et bien voilà, chers auditeurs et chères auditrices, l'appel à tarte touche à sa fin. En ce dimanche 5 mai 2013, je tiens à remercier tous les participants à cette émission, Alice on the Road, Dr JM, ainsi que nos invités qui ont déjà foutu le camp, sauf ceux qui sont restés, évidemment. Et je remercie bien sûr l'Extra Lucie, Miss Liz et l'Imperator aux manettes. Vous aurez évidemment l'occasion de nous retrouver, professeur Schmortz, ainsi que toute l'équipe, de nous retrouver face à vous le 2 juin 2013, si tout va bien, car pour la prochaine Pelle à Tarte, nous pouvons d'ores et déjà l'annoncer, comme l'a fait tout à l'heure l'Imperator. L'émission aura lieu en public, et évidemment toujours en direct, pour une inauguration exceptionnelle. Je ne sais pas si on peut déjà dévoiler des choses qui se passeront dans cette émission, mais enfin, qu'en pensez-vous ?
Non, on peut juste dire que ce sera très certainement grandiose.
Oui, donc il y aura des effets spéciaux. En direct évidemment et en public. Donc rejoignez-nous, ce sera Place du Mazet.
Voilà, vous trouverez plus d'informations de toute façon sur le site l'appelatarte.fr. Voilà.
Une place qui est non loin de la cathédrale. Donc Place du Mazet, dimanche 2 juin à 18h, de 18h à 19h. Venez pour cette émission de fin de saison exceptionnelle, on vous le promet. Chauffez la pâte,
c'est l'heure de la pelle à tarte.
Mmh.